Bonsoir. La table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais et la réduction de la dépendance aux importations s'est clôturée mercredi dernier à Kinshasa. Au cours de ces assises, le ministre d'État au commerce extérieur a plaidé pour la réduction des taxes et redevances liées à l'exportation des produits agricoles et l'agro-industrie. Jean-Lucien Boussa a également recommandé des mesures concrètes de lutte contre les tracasseries administratives, la fraude fiscale et douanière. Quelle analyse faire des résultats de ces assises? C'est la question du débat ce soir et pour en parler, nous serons avec Jean Zoza, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État au commerce extérieur. Jean Zoza nous rejoindra tout à l'heure. André Massoumbou Baya, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et président du parti pour la renaissance du Congo, RECO, et également membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Alkitenge, analyste économique et stratège. Alkitenge, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La République démocratique du Congo a organisé une table ronde de 3 jours la semaine dernière à Kinshasa sur la promotion des exportations des produits congolais et la réduction de la dépendance aux importations. Et lors de ce forum, le ministre d'État au commerce extérieur a plaidé pour la réduction des taxes et redevances liées à l'exportation des produits agricoles et l'agro-industrie. Jean-Lucien Boussa a également recommandé des mesures concrètes de lutte contre les tracasseries administratives, la fraude fiscale et douanières, le compte-rendu de cette table ronde avec Jacques-Yves Molima.
Au titre de secteur productif, il est recommandé la transformation structurelle de l'économie allant de la production des matières premières en la transformation industrielle, y compris par la création des sociétés agro-industrielles. Pour cela, les participants recommandent l'identification des filières agricoles et industrielles porteuses en matière d'intégration aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Mais pour ce faire, le ministre d'État au commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, souligne qu'au titre du secteur public, il faut
hisser les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des transports, de la communication, de l'éducation à la mesure de l'ambition de développement économique correspondant aux défis économiques de la RDC.
Non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. À cet effet, il faille
construire un réseau structurant multimodal de transport facilitant l'intégration nationale et régionale, réduire les taxes et redevances liées à l'exportation des produits agricoles et à l'agro-industrie, prendre des mesures concrètes de lutte contre les tracasseries administratives, la fraude fiscale et douanière.
Et ce n'est pas tout. Au titre des recommandations d'ordre institutionnel, les participants plaident pour la création du régime de financement des relais des entrepreneurs émergents et aussi la création de l'Agence nationale des exportations, l'affectation des attachés commerciaux dans les missions diplomatiques. Clôturant ces travaux, le Premier ministre Bruno Tshibala a promis s'investir pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations.
Bonsoir, professeur Mukundi, qui est le directeur du cabinet du ministre d'État au commerce extérieur.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà, merci d'être avec nous. Nous avons tout à l'heure annoncé votre collègue qui nous avait donné son aval pour participer à cette émission. Mais qu'à cela ne tienne, on est heureux que vous soyez là pour représenter l'autorité. Alors, vous avez certainement été au courant de la problématique de ce soir. Il s'agit de faire un peu le bilan, l'évaluation de la table ronde sur la promotion de l'industrie congolaise. Première question, on en a toute une série des questions. Alors, cette table ronde est terminée. Nous avons introduit le sujet tout à l'heure par les recommandations qui ont été faites. Alors, beaucoup de choses ont été décidées et promises. C'est quand finalement la mise en œuvre? Quel est par exemple le chronogramme, le vôtre, pour que la République démocratique du Congo puisse de moins en moins importer et fabriquer localement?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, la table ronde, c'est l'une des décisions prises par le gouvernement de la République. Vous vous souviendrez qu'avant l'entrée au pouvoir de ce gouvernement, l'économie nationale vacillait avec des taux d'inflation qui étaient galopants, avec la dépréciation de la monnaie nationale, avec une difficulté sur le plan budgétaire dans la mesure où les recettes s'aménisaient de plus en plus. Alors, le gouvernement, après diagnostic, a pris des mesures pour pouvoir corriger cet accès. Et parmi le problème constaté, c'était qu'au niveau des frontières, il y avait la fraude fiscale, au niveau des frontières, il y avait la contrebande, au niveau des frontières, il y avait des fractionnements de marchandises, etc., etc. Et par ailleurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, avait aussi signé le mois passé l'accord sur la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Et par conséquent, il faut chercher toutes les voies et moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans ces nouveaux défis, celui qui est sur le plan interne, de pouvoir, de sorte que les exportations puissent apporter quelque chose aux recettes de l'État, pour que les exportations deviennent un véritable levier de la croissance économique à l'instar d'autres pays, notamment le pays de l'Asie du Sud-Est asiatique, et aussi que la production interne puisse, n'est-ce pas, substituer les importations.
Professeur Mukundi, s'il vous plaît. Oui. Oui, jusque-là, vous nous expliquez les intentions du pays, mais quel est le chronogramme concret? La table ronde est terminée depuis déjà une semaine. Quelles sont les actions qui sont prévues dès maintenant? On parle d'industries qu'il faut faire fonctionner. Il faut déjà les mettre en place. C'est lesquelles? Comment ces sociétés, ces industries se mettront-elles en place? Quels produits elles vont devoir fabriquer localement? Et jusqu'à ce qu'on en arrive à l'exportation, plutôt à l'importation zéro.
En fait, il fallait commencer d'abord par présenter le contexte pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, quelles sont les mesures? Comment on va mettre en œuvre? Je crois que si vous avez suivi le Premier ministre lors de son discours de fermeture de cette table ronde, il disait qu'il demandait au ministère du Commerce extérieur de pouvoir élaborer ces mesures en fonction de chaque ministère sectoriel, de sorte que chaque ministère sectoriel puisse faire entrer dans son programme ces mesures-là qui étaient prises ou ces résolutions qui étaient prises au niveau de la table ronde. Et par ailleurs, il a recommandé à ce que les recommandations de la table ronde entrent dans le cadre du plan national stratégique de développement. Et donc, pour le moment, nous sommes au niveau de répartition de ces mesures. Lesquelles mesures vont être transmises chez le Premier ministre qui va donner des instructions à chaque ministère. Mais il faut pas oublier que la table ronde entre dans le cadre des mesures structurelles qui doivent être prises. Ce n'est pas du jour au lendemain comme une mesure conjoncturelle du genre de correction spontanée de quelques déséquilibres. C'est dans le cadre structurel. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'aujourd'hui même qu'on ait des solutions à l'immédiat. Non, pas du tout. Mais cependant, c'est une réforme. Ça doit entrer dans tous les secteurs productifs, dans tous les secteurs d'appui, n'est-ce pas, au commerce extérieur, de sorte que notre pays puisse bénéficier, n'est-ce pas, du commerce extérieur comme levier de la croissance.
Mais professeur, est-ce que ça ne serait pas quand même un motif de joie pour la population de savoir que, même si c'est un plan de 5 ans, qu'on sache que c'est un plan de 5 ans qui va s'exécuter de telle manière, sur tel chronogramme, et les actions qui pourront être concrètement posées?
Non, mais comme je viens de vous le dire là, c'est une mesure structurelle, c'est une réforme. Et par conséquent, dans un premier temps, comme le ministre l'avait dit, ou comme les participants à la table ronde avaient défini, il y a des mesures qui sont à très court terme. Il y a des mesures qui sont à court terme, il y a des mesures qui sont à moyen terme et évidemment, il y a des mesures qui sont à long terme. Par exemple, lutter contre la fraude fiscale. Ça, c'est une des résolutions qui a été soutenue par le ministère des Finances. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un atelier sur la fiscalité de développement. Le ministre des Finances a répondu aux participants à la table ronde. Il dit, écoutez, petit à petit, nous avons commencé à mettre ces mesures, mais d'ici 3 ans, vous allez nous poser des questions. Voyez-vous, par exemple, cette mesure-là, comme le thème en question concerne la fiscalité, avec ces mesures-là sur la fiscalité, le ministre des Finances a donné un chronogramme. il n'appartient pas au commerce extérieur de pouvoir donner un chronogramme. Vous devez le savoir, le commerce extérieur, c'est un ministère transversal. Nous sommes, comme je peux le dire, nous sommes le marketeur de l'État. Nous disons aux autres, voilà ce qu'il faut produire pour pouvoir amener ailleurs. Et il appartient maintenant au ministère sectoriel de pouvoir intégrer les recommandations telle a été l'instruction du Premier ministre. Voilà ce que je peux dire à ce point.
Et quelle garantie donnez-vous à ce stade qu'une telle initiative ne sera pas un autre mirage congolais, un peu à l'instar de ce que la population a plus ou moins connu jusqu'à présent, avec les fameuses promesses du point d'achèvement de la dette, la stabilisation du cadre économique, le parc agro-industriel de Bukangalonzo, ou encore la campagne consommant congolais?
Merci beaucoup pour ces préoccupations. Vous savez que le point d'achèvement, c'était un point de départ pour notre pays. Mais quant à la stabilisation du cadre macroéconomique, bon, ça sont des choses qu'il faut laisser au passé, parce que aucun pays ne fait un programme sur base de la stabilisation. Non. Comme le mot l'indique, la stabilisation, ce sont des mesures conjoncturelles, ce sont des mesures temporelles qui consistent, n'est-ce pas, à arrêter l'augmentation du niveau général des prix ou l'inflation, à arrêter, n'est-ce pas, l'augmentation de la diminution de la valeur de la monnaie, etc., etc. Mais un pays ne peut pas se baser, rester des années et des années pour stabiliser les cadres macroéconomiques. Non, on doit aller au-delà. Et aller au-delà, c'est de prendre des mesures conséquentes. Et pour prendre des mesures conséquentes, il faut pouvoir réfléchir. L'économiste, c'est celui qui fait les diagnostics. Et les diagnostics ne se fait pas à l'air. Et la table ronde est l'une, n'est-ce pas, des mesures qui a été prises par le gouvernement pour diagnostiquer les secteurs du commerce extérieur afin de faire de lui un secteur, n'est-ce pas, levier à la croissance économique. Donc, dire que c'est une mesure qui est prise et puis ça va passer, non, ça, on ne peut pas le dire. C'est une, ce sont des résolutions qui sont prises, qui doivent être mises en exercice par les différents ministères sectoriels. Et donc, comme le Premier ministre l'a dit, on va voir les choses, comment ça va évoluer. Et ce n'est pas seulement pour ce gouvernement. Quand on prend des mesures de 5 ans, de 3 ans, de 4 ans, ce n'est pas pour ce gouvernement. C'est une base que le commerce extérieur vient d'asseoir et tous les autres gouvernements qui suivront, ils vont suivre ces mesures-là et nos exportations seront utiles pour notre pays.
Alors, directeur de cabinet du ministère du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, professeur Mukundji, on revient à vous tout à l'heure. André Massoumbou Baya, député national de l'opposition et président du parti pour la renaissance du Congo, RECO, mais également membre de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Quel crédit accordez-vous à tout ce que vous venez d'entendre et de manière générale à cette autre initiative du gouvernement?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je viens de suivre minutieusement le professeur qui vient de parler sur la politique d'avenir sur le commerce extérieur en République démocratique du Congo par rapport à la table ronde qui a été tenue par son ministère et par le gouvernement. Et j'ai axé sur trois éléments que vous avez évoqué à l'introduction. Le but, c'était la réduction des taxes de produits agricoles et réduire, bien sûr, les tracasseries administratives et ensuite lutter contre les fraudes. Et j'ai entendu dans son discours qui est absolument, quand ils sont arrivés au gouvernement, leur objectif était d'abord de chercher, bien sûr, sur le plan conjoncturel, de pouvoir stabiliser la monnaie et éventuellement aussi lutter contre l'inflation. Mais quand nous faisons un recul d'une année, parce qu'ils sont là depuis, je crois, 10 mois ou 12 mois, 11 mois, bon, on peut faire un bilan de ce gouvernement. Et ils sont arrivés et quand au moment où le taux d'échange était programmé d'ailleurs à 1425 et aujourd'hui nous sommes à 1650, si pas plus d'ailleurs. Et donc bien que dans leur budget ils ont prévu et tout cela, mais nous sentons quand même que la stabilité n'y est pas encore. Mais nous savons réellement que par rapport aux produits miniers et aux produits pétroliers qui se sont qui ont fait un regain sur le plan mondial, la République pourra connaître, bien entendu, une douce reprise dans le mois juillet, août, septembre, afin de pouvoir trouver quand même une petite stabilité économique et reprendre. Parce que le cobalt, par exemple, qui a augmenté de 3 fois plus, et ça va permettre à la République de réaliser pas mal de performances sur le plan de recettes en matière minière. J'ai entendu des spécialistes passer dans votre radio dire que nous pensons que nous étions à 800 millions sur notre budget sur le plan de mines et que nous serons peut-être entre 2 milliards ou pourquoi pas 2 milliards et demi. Et ça, ça peut nécessairement jouer sur le plan économique à stabiliser. Maintenant, revenons sur le sujet. Je l'ai suivi. Le but, c'est de faire un plan national de développement. Un plan national qui se fera, bien sûr, par secteur ministériel. Bon, ce n'est qu'un plan. C'est-à-dire une vision qu'ils veulent projeter en 3, 4, 5 ans. Voir si les produits agricoles, en réduisant les tracasseries, en luttant contre les fraudes, ça peut nécessairement jouer sur la balance de paiement. Mais attendez, toutes ces filières agricoles, pour y voir, il faut y aller, si vous voulez, par zone spéciale qui a été créée, parce que nous avons demandé au gouvernement, par rapport à ces zones spéciales, qu'ils puissent réfléchir, voir dans quelle mesure chaque province, surtout les provinces agricoles, et comment ils peuvent relancer l'agriculture dans toutes ces provinces-là. Je peux te donner un exemple. La province de l'Équateur, c'est une province où vous avez plus la forêt, et vous avez les arbres, et donc l'exportation du bois. C'est un élément important qu'ils peuvent intégrer. L'huile de palme, dans les bassins Koussou, il y avait vraiment des filières en ce qui concerne les huileries. Comment relancer ces huileries-là? Bien, toujours à l'équateur, là-bas, il y avait des EVA. Eh bien, il faut relancer ces EVA-là. Vous allez dans l'ancienne province orientale, il y avait du café arabica, où vraiment qui faisait la fureur dans les années passées, qui permettait même au niveau de la Banque centrale de pouvoir, au niveau même du pays, d'avoir une balance commerciale assez élevée en matière d'exportation des produits agricoles. Et vous pouvez y aller jusqu'au Kivu là-bas, où la banane était très 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 préférée. Et la partie du nord et sud Kivu produisait beaucoup de bananes qui étaient exportées à l'extérieur. Vous venez à l'ouest ici. Vous avez, par exemple, le Congo central, il y avait 10 cafés, il y avait 2 bananes de table qui étaient encouragées dans les temps, qui étaient exportées à l'extérieur. Il faudrait nécessairement que toutes ces filières-là. Dans les Bandundu, c'est la même chose. Et donc, il faudrait que nos amis du ministère du Commerce extérieur fassent vraiment un travail de fond. Ce n'est pas venir et faire c'est bien de réfléchir dans une table ronde, échanger, mais au vu de ces échanges-là, ils doivent nous démontrer, ils doivent créer en sorte que ces petites entreprises, ces opérateurs économiques...
Oui, mais au regard de tout le chantier que vous venez de montrer, est-ce que vous croyez en l'avenir de cette table ronde? Et est-ce que, même si le chronogramme n'a pas été détaillé, vous voyez un chronogramme se réaliser dans l'échéance qui a été donnée?
Non, nous sommes pratiquement dans une période préélectorale, monsieur. Et donc, il faut savoir que les amis qui sont là au gouvernement peuvent laisser un plan, mais qui ne sera pas nécessairement réalisé par eux. Écoutez, l'État congolais a une certaine continuité. Mais c'est bien de réfléchir et de laisser quand même quelques documents que les autres pourront venir réaliser. Parce qu'il ne faut pas croire que ça va se réaliser en 6 mois. Et si la CENI respecte les calendriers, respecte ce que les gens proposent en disant, écoutez, laissez vos machines à voter, faites ceci, faites cela, et qu'on s'entend sur des élections. Ben, à ce moment-là, le 23 décembre, nous allons pouvoir voter. Et on aura des nouvelles institutions l'année prochaine.
Merci André Massoumbou Baya, député national de l'opposition et président du parti RECO. Alki Tengue, analyste économique et stratège, vous avez l'habitude de ce type de débat. Votre appréciation sur cette nouvelle initiative du gouvernement?
Merci beaucoup pour votre parole. Je pense que l'initiative est bonne, comme toute autre initiative. Mais je pense qu'il y a une petite faute dans la procédure, c'est que avant même de parler du commerce extérieur, il faut parler de l'économie nationale. Nous avons en République démocratique du Congo une économie tout à fait extravertie. Ça veut dire qu'en fait, nous importons tout. La première des choses, le premier effort que nous devrions nous être en mesure de faire, c'est de nous assurer que nous produisons ne serait-ce que ce que nous consommons déjà. Et ça veut dire qu'en fait, nous devons être en mesure de repousser les importations inutiles, être en mesure de substituer les produits importés par des produits locaux. Et nous avons l'avantage d'avoir un territoire large et nous avons l'avantage d'avoir une population importante. Ça veut dire qu'en fait, nous avons un marché intérieur important. La première des choses et la première des priorités devrait être de structurer une économie nationale qui marche. Une économie où les 26 provinces échangent des produits. Une économie où nous échangeons sur le territoire congolais. Et pour ça, on a besoin, bien entendu, de transformer les produits que nous avons sur le territoire congolais afin de leur donner une certaine stabilité, afin que nous soyons en mesure de les mouvoir sur le territoire avant que les produits ne se dégradent. C'est pour ça qu'il est important d'avoir dans chaque province une agence provinciale de promotion des investissements et avoir la possibilité de faire agir le fonds de promotion de l'industrie dans toutes les provinces. Ça permettrait que nous ayons une offre intérieure et une demande intérieure que nous assouvissons avant même de pouvoir penser aux exports. Mais je voudrais quand même revenir sur le fait que c'était important d'avoir un forum sur les exportations. Tous les pays du monde savent qu'on s'enrichit parce que l'on vend à l'extérieur de son territoire. Et donc mettre en place un desk export est quelque chose de bien, mais ça ne peut fonctionner que dans une trilogie entre le ministère du commerce extérieur avec l'ANAPI et le fonds de promotion de l'industrie, pour permettre que nous ayons la capacité de, un, donner les moyens aux producteurs locaux de pouvoir affronter le marché extérieur, parce qu'il y a deux choses importantes. C'est, un, les besoins de qualité, que sont les exigences de tous les pays où nous envoyons les produits, où nous sommes censés envoyer les produits. Deuxième, c'est l'emballage, qui est une grosse faiblesse au niveau de la République démocratique du Congo. Mais en plus, lorsque vous mettez en place une stratégie d'exportation, vous devez vous poser la question vers où vous désirez exporter. Il n'y a pas trois réponses. La première réponse, c'est un, qui nous envoie le plus de produits chez nous aujourd'hui? Nous savons très bien que notre plus grand marché, notre plus grand partenaire, c'est la Chine. Et donc, nous avons l'avantage de pouvoir faire un target sur la Chine, qui a une dividende démographique extrêmement importante, qui est en fait une véritable opportunité pour nous. C'est de toujours savoir qu'est-ce que nous pouvons leur envoyer et qu'ils n'ont pas, qu'est-ce que nous avons de mieux que chez eux. Deuxième, à côté de la Chine, c'est l'Inde. Et après ça, nous allons regarder les pays qui ont beaucoup de moyens pour acheter les biens. C'est l'Occident, en l'occurrence l'Europe et éventuellement le Canada et les États-Unis. Et donc, il faut être en mesure de savoir quels sont les produits dont nous avons le potentiel et dont eux, ils ont besoin. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons avoir une stratégie orientée, planifiée dans le temps et être en mesure de mettre une synergie entre les différents outils que nous avons, et ici j'ai cité deux outils, l'Agence nationale de promotion des investissements avec ses dividendes provinciales, mais également le fonds de promotion de l'industrie avec la possibilité de pouvoir alimenter les agences provinciales de promotion des investissements.
Alors, sur base de ce que nous avons déjà fait avec vous, il n'y a pas si longtemps que ça, avec vous, nous analysions l'avenir de la zone de libre-échange continentale. Vous venez de relever un élément important. Le pays devrait d'abord s'autosuffire et les provinces devaient s'échanger les produits. Quel est, au stade actuel, selon vous, l'état du potentiel de production province par province et dont la RDC pourrait faire son assiette déjà pour le commerce à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, comme semble être sa vision.
Le premier défi, c'est la nourriture. Il est ridicule que nous soyons un pays qui importe nos besoins primaires. Nous devons être en mesure de stabiliser notre consommation intérieure en achetant seulement ce que nous produisons à l'intérieur de nos territoires. Et il est important de savoir que nous avons le potentiel. On a deux freins. Le premier frein, il est physique. Ce sont les infrastructures de transport. Comment acheminer les matières premières d'un point à un autre? Comment amener l'énergie là où on produit pour être en mesure de transformer? Et comment nous faisons pour que nous soyons en mesure de mouvoir les produits finis d'un point à un autre en fonction de la spécificité de chaque province? Notre deuxième point, c'est la connaissance de l'information économique. Vous savez, il y a beaucoup de biens que nous importons de l'extérieur, dont nous avons le stock sur le territoire, mais il se fait simplement que les gens ne savent même pas que nous avons du stock de tels produits. Je vais vous en citer un, c'est les haricots. Nous importons énormément d'haricots de la Chine, et les gens ne le savent pas. Nous importons des haricots fortement pollués de métaux lourds, alors qu'il y a énormément d'haricots qui pourrissent dans le Kassai, ou dans les Kassai. Il y a énormément de haricots qui pourrissent dans l'est de la République. Et il est important que l'on sache que, à part ça, dans le Katanga, nous avons un potentiel important agronomique. Et si nous avons l'information sur toute l'étendue de la République des besoins et des potentiels, nous pouvons être en mesure de les relier et créer véritablement le marché intérieur. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait qu'il est important que nous travaillions sur les infrastructures physiques structurantes qui permettent qu'il y ait une mobilité non seulement des personnes, mais surtout des marchandises.
Monsieur le directeur de cabinet, Emmanuel Mukundji, vous avez suivi la réaction de vos co-débatteurs. À présent, nous allons vous inviter à écouter plutôt un auditeur qui souhaiterait émettre son avis sur le débat du jour. Et notre auditeur nous vient de Goma.
Je réponds au nom de Monsieur Clovis Muliro depuis la ville de Goma. L'initiative de Monsieur le ministre est encouragée. Cependant, pour favoriser les exportations, il ne suffit pas seulement de faire des déclarations dans des salles ou encore dans des bureaux. Il faut d'abord améliorer la situation de l'économie au niveau interne, amenant les actions qui favorisent le climat des affaires au niveau national. Comme exemple, aujourd'hui, plus de 50% de la population de Goma dépend de la production du Rwanda, en commençant par l'eau potable jusqu'aux tomates, alors qu'il n'y a pas plus de 10 ans que la population du Rwanda dépendait de la production de Masisi et Rutshuru en vivre. Ceci se justifie non seulement par la stabilité sécuritaire que Rwanda est en train de connaître aujourd'hui, mais ceci nous montre que nous manquons aussi de stratégies, surtout dans les infrastructures de base, le manque de routes agricoles.
Directeur de cabinet du ministre d'État au commerce extérieur, Emmanuel Mukundji, votre réaction?
Merci beaucoup. D'abord, j'ai lu et j'apprécie la qualité de l'analyse, que ce soit de l'honorable ou de notre frère, un grand analyste, et aussi même celui qui a appelé à Goma. Vous comprenez que à ce niveau-là, les Congolais sont à même de pouvoir réfléchir et de mettre des solutions. Tout ce qu'ils ont et ils viennent de donner comme analyse, ce sont les choses qui ont été dites à la table ronde et c'est réel. À notre ami de Goma, je vais très rapidement dire que le ministre n'est pas seulement dans son bureau, le ministre est partout. Maintenant là, je viens, moi et le ministre, nous venons de Pondwe. Lui, il connaît Pondwe, c'est la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Pondwe du côté de l'Ouganda et chez nous, c'est Kasindi. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que le commerce international n'est pas seulement le commerce de cobalt, comme je l'ai entendu par l'honorable. Dans le commerce de cobalt, le commerce de cuivre, ça s'est dépassé. Aujourd'hui, le commerce s'appuie beaucoup plus sur les petites et moyennes entreprises. S'appuie plus sur le petit commerçant. Et le petit commerçant, le petit et moyennes entreprises, on le retrouve aux frontières aussi. Voilà la raison pour laquelle nous étions à la frontière des Kasindi Pondwe pour négocier avec nos frères ougandais. Dans le sens que le commerce que nous devons faire doit être profitable à tout le monde. Et je crois que ceux qui sont à Kasindi peuvent le dire, ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été signé. Nous étions il y a deux semaines à Rubavu, il connaît Rubavu, où nous sommes en train de débattre avec le Rwandais Il y a 5 ans, il se souviendra, à la Grande Barrière, il n'y avait pas de port à arrêt sec. Aujourd'hui, à la Grande Barrière, il y a ce port et nous faisons de sorte que cela puisse se réaliser davantage, même à la Petite Barrière. Cela, c'est pour résoudre à une question que l'analyste a posée, la question de la connectivité. Parce que quand il parle de transport, ça se résume en un mot, c'est la connectivité. Il y a ce qu'on appelle la connectivité physique qui met en exergue le transport, le route et consorts, et il y a aussi la connectivité numérique qui met en exergue l'information. Un petit commerçant qui est au Congo, il a la difficulté de pouvoir acheter l'information du dehors pour pouvoir vendre. D'où l'importance de l'agence de promotion des exportations telle qu'il a annoncé. Cette agence aura comme fonction, comme rôle, de pouvoir acheter les informations du dehors pour pouvoir le vendre à moindre coût, si pas les donner gratuitement aux petits commerçants. Il faut savoir que dans le commerce actuel, c'est beaucoup plus la qualité des produits qui compte. C'est beaucoup plus, n'est-ce pas, les prix qui comptent. D'où il faut améliorer la productivité, il faut améliorer la qualité des produits et il faut aussi diversifier les produits pour bénéficier de chaînes de valeur.
Emmanuel Mukundji,
voilà ce que je peux dire.
Oui, Emmanuel Mukundji, un autre objectif visé pour que la RDC économiquement se fortifie, c'est aussi une des recommandations de votre table ronde, c'est la lutte contre les tracasseries et les fraudes douanières. Comment concrètement pouvons-nous arriver à combattre ces deux fléaux? Apparemment, ce sont des adversaires qui ne sont pas difficiles à combattre. C'est des mesures à prendre immédiatement. Concrètement, comment comptez-vous déjà dans les jours à venir lutter contre les tracasseries administratives en faisant face bien évidemment au phénomène motivation du fonctionnaire qui doit suivre le dossier de l'entrepreneur, mais aussi la fraude fiscale quand on sait qu'il n'y a généralement pas de facturation des entrées dans les caisses de l'État et une absence criante de l'informatisation.
Voilà. En fait, selon les analyses qui ont été faites à la table ronde, parce que moi je vais rester toujours dans la table ronde, n'est-ce pas, la surtaxe a deux sources. La première, évidemment, c'est le taux qui est fixé par les autorités. Et là, je le dis dans mon introduction, le ministère des Finances est en train de jouer son rôle. La deuxième, c'est la multiplicité des services. Lorsque vous avez plusieurs services aux frontières, croyez-moi, chaque service demande ne plus que 1 franc, 2 francs, 3 francs. Si vous mettez 3 francs multipliés par 20, vous voyez combien ça peut donner. Donc, par où commencer? Il faut commencer par là. En ce qui concerne la hausse des taux, je vous dis, le ministère des Finances s'y met. En ce qui concerne la multiplicité des services, il y a un décret du Premier ministre qui stipule que nous devons rester avec 4 services d'ordre opérationnel aux frontières. L'exercice doit être là, parce que le texte est déjà là, mais l'exercice consiste à faire partir les services qui ne sont pas concernés par les commerces. Parce qu'un petit commerçant a besoin d'un bénéfice de 2$, 3$, et il fait ses transactions, il apporte quelque chose au pays, il paye ses taxes, il paye ses impôts, et cela contribue à la pièce de l'État. Mais à partir du moment où on les tracasse, on lui demande par plusieurs services, la conséquence c'est qu'il trouve son coût augmenté et l'autre conséquence c'est le fractionnement des marchandises. Ça nous vivons ça à nos frontières. Ça voudrait dire que le commerçant voudra, au lieu de passer par la voie officielle, parce qu'il y a beaucoup de services là-bas, il voudra fractionner les marchandises. Par exemple, il est à Pondé, nous sommes en Ouganda, il prend tout un conteneur qui est transformé en tchoukoudou, les gens de Goma comprennent de quoi je parle, et il traverse par la forêt et la marchandise passe. Tout ça parce qu'on évite le multiplicité des services. Donc, par où commencer? Ça, c'est une question transversale qui concerne, primo, le ministère de l'Intérieur, parce que je viens de l'Intérieur, évidemment, le ministère de l'Intérieur, qui doit faire de sorte que tous les services, et d'ailleurs ça a été pris comme résolution à la table ronde, que tous les Merci. Services qui ne sont pas concernés par Merci. Le commerce puissent partir. De deux, il y a aussi l'armée. Lorsque on vous dit, vous êtes à Pondela et à Katindi, on vous dit que les commerçants vous disent que ceux qui font traverser les marchandises...
Emmanuel Mukundji, merci. André Massoumbou Baya, député national de l'opposition et président du parti RECO, nous allons vous inviter aussi à écouter cet auditeur de Boutembo.
Je suis Kakou Lemoutseke depuis Butembo. Je soutiens les retombées de ces assises, d'autant plus qu'à ces niveaux, ça va contribuer à la relance de la production locale et du petit commerce, réduire la pauvreté, mais aussi lutter contre la malnutrition. Toutefois, quelque part, je trouve qu'il y a des préalables qui auraient dû être faits en amont, comme la promotion de l'industrie, la transformation agro-pastorale et l'assainissement du secteur du petit commerce, à lutter contre la tracasserie administrative, la corruption, la fraude, parce que ceci pourrait constituer un obstacle à cette démarche. En somme, un suivi rigoureux de l'application de ces décisions s'impose pour éviter que ces mesures ne souffrent de l'inapplication comme bien d'autres.
André Massoumboubaya.
Oui, je viens de suivre José Kakoulé et il a pleinement raison par rapport aux éléments qu'il a essayé de démontrer et surtout les obstacles qui sont généralement remarqués sur le terrain quand les gens cherchent à pouvoir relancer l'exportation de produits agricoles. Bon, mais je suis tout à fait d'accord par rapport à l'analyse qui a été faite par, comment il s'appelle?
Al Kitenge.
Effectivement, il faut d'abord créer une autosuffisance alimentaire au niveau du pays avant d'exporter. Mais nous avons des contraintes. Et ça, je l'ai dit, tout le monde revient sur le FPI, l'ANAPI, tout ça. Mais c'est bon.
Mais André Massoumbou, vous allez compléter votre réaction. Mais est-ce que ce n'est pas un peu aussi de votre faute, vous les élus? Vous avez apparemment l'habitude de laisser le gouvernement rentrer dans plusieurs projets, faire beaucoup de promesses à la population dont on ne voit pas toujours la concrétisation dans le vécu quotidien.
Ben oui, très bien. Vous savez, notre mission, c'est d'abord, un, de légiférer, donc de mettre des lois à la disposition du gouvernement pour pouvoir s'exécuter. Et je pense qu'il y a eu une table ronde là, et j'ai entendu beaucoup de suggestions, création d'une agence, tout ça, c'est très bien. Donc ce sont des choses que le gouvernement pourra, à un temps bien essayer de déterminer, pourra soumettre à l'Assemblée nationale, pour pouvoir légiférer par rapport aux idées.
Mais qu'est-ce qui est si difficile pour la RDC à mettre en pratique par rapport à d'autres pays qui, eux, font des réalisations palpables? Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, par exemple, qui sont en train de rendre concret les recettes par rapport au cacao, dont ils sont les producteurs mondiaux. Le Sénégal avec l'arachide, le Mali avec le coton. La RDC, c'est toujours des promesses.
Parlons par exemple de la Côte d'Ivoire. Je te prends au mot. Et au Fouette Boigny, quand il était président de la République de la Côte d'Ivoire, il avait mis en place une caisse de stabilisation. Cette caisse de stabilisation permettait à tout, même aux étudiants qui terminaient leur studies universitaires, de venir avec des projets. Et l'argent qui était réalisé au niveau de la caisse de stabilisation était mis à la disposition de ces étudiants et ils allaient exécuter leurs projets en République de la Côte d'Ivoire. Et ces projets-là ont permis, bien sûr, à pouvoir relancer les cacao, relancer les cafés et aller dans les filières et caféières jusqu'à l'industrialisation, la transformation. Et aujourd'hui, les cafés de la Côte d'Ivoire est commercialisé à l'Occident. Et d'ailleurs, très préféré.
La RDC aurait dû imiter cet exemple,
tout
non?
Tout à fait. Mais il faut créer alors ce genre de caisse de stabilisation. La FPI existe. Mais la FPI, c'est pour l'industrialisation, pour aider quand même à certaines industries de pouvoir se relancer. Je suis d'accord à ce stade-là, de pouvoir dire que la FPI peut aider. Mais pourquoi ne pas créer cette caisse de stabilisation-là, ou cette agence, qu'ils ont dit agence, pour aider ces entreprises à financer leurs projets.
Une réflexion que le gouvernement va continuer à mûrir. Al Kitenge, analyste économique et stratège, pour vous, cette réflexion qui nous vient de Bukavu.
Abamungu Baribouza de Bukavu, à mon avis, les assises n'avaient aucune raison d'être, car la RDC ne manifeste aucune volonté de limiter ses importations. Il suffit par exemple de jeter un œil sur la part allouée au secteur agricole, sur l'état de nos routes et la situation sécuritaire du pays, pour donner raison à ceux qui pensent que l'État congolais a déjà laissé sa population telle intérêt vise à exploiter par ses voisins. Pour nous qui vivons à Bukavu, par exemple, nous importons presque tous nos aliments du Rwanda, du Burundi ou de la Tanzanie, alors que les mêmes aliments pourrissent à quelques centaines de kilomètres de Bukavu, faute de routes ou de sécurité. Avec un pays si riche, il est ridicule que nous importions les poissons, les piments, les citres, les riz, les maïs, les haricots, voire de l'eau potable.
Al-Kitenge, Abamungu dénonce un peu les mêmes faits que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est exact, et je suis particulièrement heureux que M. Abamungu, justement, redise de manière simple exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est important de se doter d'un plan national stratégique de développement qui intègre l'économie nationale, qui la renforce et qui résout les problèmes structurants pour que nous soyons en mesure de bénéficier des dividendes démographiques et spatio-temporels. Nous avons la chance d'avoir tout ça entre nos mains et la capacité de pouvoir les transformer. Mais il faut le vouloir et il faut savoir cibler les actions. La deuxième des choses, et je voudrais revenir sur le sujet du jour, c'est que l'Agence nationale de promotion des investissements, c'est une très bonne chose, mais elle est à Kinshasa. Il est important que chaque province ait une agence de promotion des investissements, qui est en fait une entité locale qui étudie les problèmes locaux. C'est celle-là qui devra donner les informations aux autres provinces sur les différents potentiels qu'il y a et éventuellement profiter de l'occasion pour partager l'expérience. Le fonds de promotion de l'industrie. Nous ne pouvons pas espérer faire quoi que ce soit si nous n'avons pas de l'industrie industrialisante. On a la grande industrie, il y a la petite et la moyenne industrie. Il est important qu'on puisse s'appuyer sur les deux pour être en mesure, avec le ministère du commerce extérieur, de monter un desk export. Après, il faudra bien entendu avoir un instrument financier spécial pour être en mesure de pousser les exportations. Mais je voudrais encore ici répéter, pour être en mesure d'exporter, il faut répondre aux exigences de qualité international et il faut être en mesure d'emballer correctement. Pour être efficace, et je le redis encore une fois, il faut cibler. Et mon point de vue, c'est qu'il faut cibler la Chine, il faut cibler l'Inde. Chaque chose que l'on pourra être en mesure de vendre à un pays comme la Chine, on le vendra par milliards. Et à mon avis, ça pourra permettre que nous soyons en mesure de compenser les difficultés d'échange commercial que nous avons avec ces pays. Et le troisième point, c'est qu'on ne vend qu'aux riches, les gens qui ont les moyens. Il faut être en mesure de cibler l'Occident riche, il faut être en mesure de savoir de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que nous pouvons être en mesure de leur donner. Et donc derrière, il ne s'agit pas de faire un colloque pour être en mesure de donner des recommandations vaines. Après, il faut des études profondes pour être en mesure de donner une orientation réelle. Et là-dessus, j'en appelle à la participation de nos universités, province par province.
Merci beaucoup Al-Kitenge de votre contribution. En 10 secondes, nous allons inviter monsieur le directeur de cabinet du ministère du commerce extérieur de nous dire très rapidement au bout de combien de temps vous pensez que la RDC peut arrêter de tout importer.
Parce que le slogan vous donne le temps précis parce que la question est profonde. Mon ami de Bouka vous l'a dit. Quand vous parlez de la sécurité, vous parlez de la route, il y a deux notions. Vous avez la notion d'intégration verticale et horizontale des secteurs économiques. Vous avez la notion d'intégration régionale, de sorte que l'agriculture, l'industrie et les autres secteurs soient connectés pour que notre économie soit structurée.
Emmanuel Mukundji, je vous remercie. En 10 secondes aussi, monsieur le député national, André Massoumbou, dans combien de temps la RDC peut arrêter d'importer?
Bien, je crois que le processus est assez long. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter la concentration de toutes les énergies vers le centre.
Merci beaucoup.
Et de faire une déconcentration vers les périphéries.
Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais pour ce soir, c'est fini. Jean-Claude Nsial à la technique, Guy Maté à la réalisation, Donat Madimba Sémon à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.